Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute une vie, le portrait sonore d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et peut-être surtout les suivantes. Une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. Aujourd'hui, Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof, c'est l'histoire d'une enfance en guerre qui tente de construire un autre monde sur les décombres du nazisme. C'est une intellectuelle que l'on voit sur les images d'archives, souvent seule femme au milieu de vieux monsieur en costume. C'est aussi bien sûr la bande à Bader et la clandestinité du désespoir et du terrorisme qui a marqué le début des années 70 en Allemagne et pas seulement. Ulrike Meinhof, c'est l'histoire d'une rupture et c'est maintenant.
Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. La guerre n'est plus déclarée, mais elle continue. Obtenir des émissions de télévision, être écouté, fait partie de mon métier de journaliste et de socialiste, étendant mon influence bien au-delà de mon travail au magazine Concret. Die Rolle, die mir dort Einsicht verschaffte, entspricht meinem Wesen und meinen Bedürfnissen nur sehr partiell, weil sie meine Gesinnung als Kasperle-Gesinnung vereinnahmt. Mich zwingend, Dinge lächelnd zu sagen, die mir, uns allen, bluternst sind. Also grinsend, also maskenhaft.
La mort d'Ulrike Meinhof reste nimbée d'une espèce de mystère, puisqu'on peut trancher pour le suicide, comme certains le font, pour l'assassinat. Et donc, plutôt que de s'apesantir sur cette espèce d'indétermination, on peut voir dans la mort d'Ulrike Meinhof certainement la préfiguration d'un changement d'époque, d'un abandon de la lutte armée, peut-être de l'abandon de l'idée de révolution.
Ulrike Meinhof, also maskenhaft, comme sous un masque.
Ulrike Meinhof. Anna Baron, Franck Lilan.
Ce qui frappe chez Ulrike Meinhof, depuis le début, quand on se penche à la fois sur son parcours politique et sur tous ses textes, aussi bien les textes publics que les textes qui n'étaient pas destinés à être lus et communiqués au public, comme le journal intime ou des lettres, une correspondance, ce qui frappe, c'est ce refus de tricher. C'est-à-dire, à partir du moment où on tient une position... On ne peut pas jouer à la révolution le jour et puis rentrer ensuite chez soi et faire la bringue avec d'autres amis. C'est un modèle qui ne lui convient pas. Elle veut vraiment être en accord total, mettre ses actes en accord avec ses positions politiques, ses pensées. Et donc ça va être lutter jusqu'au bout. Elle n'est pas en paix avec ce monde d'Ulrike Meinhof. Elle ne l'est pas et elle ne veut pas l'être. Et c'est ce refus de trouver un compromis, un arrangement, comme on fait tous. Enfin, presque tous les gens qui ont eu un engagement révolutionnaire avec des guillemets, on fait quand même que s'ils arrivent à être vivants à mon âge, par exemple, c'est qu'ils ont fait tous les compromis nécessaires et qu'ils ont mis la révolution au clou, comme dit Ulrike Meinhof. Elle ne veut pas mettre la révolution au clou. Et d'où cet engagement total, absolu.
9 mai 1976, Ulrike Meinhof est retrouvée morte. Dans les journaux, à la radio, ils disent « Elle était journaliste, terroriste. C'était le cerveau, la théoricienne, l'enfant perdu de l'Allemagne. » Dans le cimetière de Berlin-Tempelhof, 4000 personnes sont rassemblées. Des visages sont masqués. Sur une pancarte qui survole la foule, on peut lire « Nous portons le deuil et la colère. Il ne nous quitte pas. » Sur la tombe, un nom sans majuscule. Ulrike Marie Meinhof. 7 octobre 1934, 9 mai 1976.
Alors, son enfance, l'enfance se distingue pas finalement fondamentalement de l'enfance des jeunes Allemands nés dans les années 30. Elle naît en 1934.
Anne Steiner.
Elle naît un an après la prise de pouvoir d'Hitler et quand l'Allemagne s'effondre et le régime avec. Elle a donc 11 ans. Donc, on peut dire que son enfance est quand même marquée par cette ambiance. En plus, son père meurt. Il ne meurt pas au front, mais elle est orpheline de père, comme finalement ça a été le lot de beaucoup de jeunes Allemands de cette génération. Et elle va être élevée au fond par deux femmes, ça c'est peut-être ça qui est singulier, sa mère et la compagne de celle-ci. Elle perd sa mère assez jeune, elle a 13 ou 14 ans, dans cette Allemagne d'après-guerre en ruine, tout est difficile, même la vie matérielle. Et sa tutrice, donc, va être cette jeune femme avec laquelle sa mère partageait sa vie, Renate Rimek, qui est une jeune historienne.
Renate Rimek, donc, est une figure importante de la gauche allemande, qui est, à mon sens, quand même une figure fondatrice pour Ulrike Meinhof.
Véronique Bergen.
C'est une figure du pacifisme, et c'est à ses côtés que Ulrike Meinhof, pendant plus de 10 ans, a cru dans la possibilité de recourir aux moyens légaux de manifestation, de protestation, afin de contrer l'oppression. Donc c'est une figure essentielle dans la trajectoire d'Ulrike Meinhof.
Et donc, assez vite, elle milite dans le mouvement pour la paix, un parti qui s'appelle l'Union allemande pour la paix, DFU en allemand, le sigle, qui regroupe pas mal de communistes. Le parti communiste, le KPD, devient interdit à l'Ouest en 1956. Il est déclaré anticonstitutionnel. Et c'est dans ce climat qu'elle évolue, donc avec une tutrice qui est quand même assez proche des milieux communistes, au fond, à travers ce combat pour la paix, dans lequel elle-même va s'engager toute jeune, dès son entrée à l'université, enfin dès l'âge de 18-20 ans. En 1957, elle prononce un discours en faveur de la paix et contre le réarmement lors d'un congrès étudiant. Elle est remarquée pour ses talents d'oratrice. Déjà, elle écrivait dans un peu Das Argument, une petite publication estudiantine en faveur de la paix, contre le réarmement, contre l'inclusion de la RFA dans l'OTAN. Et elle reprend ces thèmes dans son discours. Et bon, on savait déjà qu'elle avait une certaine maîtrise des discours politiques écrits, mais là, en plus, elle se révèle bonne oratrice et du coup, elle est comparée à Rosa Luxembourg. Mais ça, c'est un petit peu ridicule parce que peu de femmes prenaient la parole, d'où cette comparaison, puisque c'est la figure de référence disponible, Rosa Luxembourg.
Liebe Mitbürger.
Ulrike Meinhof, à propos des élections fédérales ouest-allemandes, septembre 1961.
Chers concitoyens,
am 17. September sind Wahlen. Bei diesen Wahlen fällen Sie eine
en ce jour, vous devrez faire un choix important pour votre avenir.
Über Krieg oder Frieden.
La guerre ou la paix.
Immer, wenn man bisher
à chaque fois qu'ils ont fièrement exposé leurs soldats, leurs bombes et leurs canons,
erinnern Sie sich noch,
une guerre s'est déclarée.
Zwei furchtbare
Rappelez-vous,
Weltkriege.
De terribles
Fast
guerres mondiales
Familie gab es Tote zu beklagen.
Et des familles endeuillées.
Und was war das Ende?
À quelle fin?
Deutschland war in Trümmerhaufen.
Une Allemagne en ruine.
Soll es schon wieder losgehen?
Est-ce que tout cela doit recommencer?
Wir haben zwei Worte zu unserem
Notre programme,
programme
peut se résumer ainsi.
Neutral,
oui à la neutralité, non
Wenn
au nucléaire.
Neutral wird,
si l'Allemagne devient
neutre,
nous réussirons la réunification.
Ulrike Meinhof a rencontré lors d'un congrès à Berlin qui réunit tous ces milieux pacifistes, un journaliste qui s'appelle Klaus Rainer Roll et qui dirige un magazine qui s'appelle Concrète, qui s'appelait Courrier étudiant, je te donne une curieuse, avant, qui est devenu Concrète en 57, au moment après où ils font connaissance. Il lui propose de travailler pour le magazine. Elle va s'installer à Hambourg et elle devient même assez rapidement éditorialiste. Elle a une assez belle plume, en fait, très synthétique, qui va à l'essentiel, etc. Et elle devient la femme de Klaus Rainer Roll. Donc il y a une histoire d'amour aussi entre eux. Elle l'épouse et ils ont une vie, on va dire, Ulrich Meinhof et Klaus Rainer Roll, assez confortable, de belle maison à Hambourg, dans un bon quartier, bientôt deux enfants puisqu'elle va accoucher de jumelles au début des années 1960. Bon, c'est une vie assez bourgeoise, mais bourgeoisie intellectuelle de gauche.
Je m'appelle Timon Koulmassis et je suis cinéaste. Je suis d'origine grecque, né en Allemagne, mais je vis en France. Elle est une amie de mon père, et puis mes parents, et puis elle et son mari, Klaus Rainer Roll, étaient très amis. Et puis donc, chaque couple avait deux enfants. Donc, d'une certaine manière, on a grandi ensemble à l'époque à Hambourg. Donc, le lien est par là. Après, c'est surtout dans les années où elle était en clandestinité, donc entre 70 et 72, que nous avons été très proches avec ses enfants, à elle, qui en partie ont vécu chez nous. Et puis donc, c'est une amitié avec les enfants qui a duré très très longtemps. Voilà, enfin, c'est une histoire familiale. Les années 60, c'était un vent des possibles, même pour les enfants. C'est une époque d'expérimentation. Il y avait ce qu'on appelait l'éducation anti-autoritaire aussi. Donc les enfants étaient assez libres. En gros, il y avait des formes de vie, de vivre ensemble, qui étaient en train d'être expérimentées, qui est une sorte de fixation d'une société, une société qui était figée, qui était en train de craqueler un peu de partout. Donc ça nous a sûrement influencé. Je me rappelle que ça dérangeait personne quand on était avec une boîte à sucre, qu'on saupoudrait les tapis avec ça parce que ça faisait des jolis dessins, ou qu'on peignait sur les murs avec des couleurs, quoi. J'en retiens quelque part comme un sentiment de liberté qui peut-être aujourd'hui fait défaut.
Also heute geht es um die, wie es provokativ wieder genannt worden ist, die ausgehöhlte Moral.
Débat sur le déclin de l'autorité.
Die abgelebte Moral. Ja, diesmal ausgehöhlte Autorität.
13 Février 1967.
Am Tisch hier sind hier rechts Frau Ulrike Meinhof aus Hamburg, Kolumnistin der Zeitschrift Konkret.
Eltern haben zum Beispiel Glaubwürdigkeit hinsichtlich ihres Verhältnisses zum Staat.
Ont perdu leur crédibilité en s'identifiant au national-socialisme. L'Église catholique a perdu sa crédibilité en se réfugiant dans le national-socialisme. Le patronat a aussi perdu crédibilité et autorité ces 100 dernières années. À cause des conditions atroces utilisées pour développer l'industrie. Ceux qui représentent l'autorité ne sont plus crédibles. On ne peut plus se fier à eux qu'en hésitant. D'un autre côté, les relations sociales restent incroyablement autoritaires. Si on a la volonté ambitieuse et présomptueuse d'éduquer le peuple, on doit créer de réelles conditions démocratiques. Alors, une autorité vraie peut exister. L'abus d'autorité est annihilé, ainsi que la servilité et la soumission à l'État.
Ce n'est possible qu'en changeant la société, concrètement.
Elle naît dans l'Allemagne de la honte. On ne peut pas saisir la trajectoire d'Ulrike Meinhof et a fortiori celle de la fraction armée rouge sans prendre bien sûr en considération l'histoire allemande, l'âge de la honte et la culpabilité des pères. Enfin, tout le monde parle d'une absence de dénazification. Et c'est la phrase d'Ingeborg Bachmann qui revient souvent, la guerre se perpétue mais par d'autres moyens. Et la perpétuation de la guerre, c'est effectivement la présence, par exemple, dans les tribunaux d'anciens SS, qui avaient quand même une carrière dans le crime et dans le génocide assez exemplaire, et qui se retrouvent exactement au même poste. Et Ulrike Meinhof, lorsqu'elle est éditorialiste de Concrete, elle va écrire énormément d'articles politiques sur la clémence dont avait fait preuve un ancien SS, Karl Wolf. Elle imputait la clémence à juste titre à un tribunal qui, d'une part, voulait refouler la culpabilité, ne plus entendre parler du passé nazi, livrer l'Allemagne à un boom économique et à une entrée dans le capitalisme, et à la présence, bien sûr, d'anciens nazis au poste de procureur et de juge. Il y avait un côté militant chez Ulrike Meinhof, au travers des sujets dont elle parlait, une grande vigilance quant aux signaux de l'oppression qui germe dans le monde, également une attention toute particulière au raccord, et c'est fondamental pour comprendre sa trajectoire par la suite, au raccord entre les mouvements de contestation dans les métropoles occidentales, japonaises ou américaines et les luttes dans le tiers-monde.
Je pense que les sujets que Ulrike Meinhof a traités dans ses reportages ou écrits ou à la télévision, etc., sont les sujets de l'époque. C'est la guerre du Vietnam, c'est l'anti-impérialisme d'un côté, et puis c'est de l'autre côté la grande injustice d'une société qui est encore peut-être pas divisée en classes, mais où il y en a ceux en haut et ceux en bas quand même. Donc elle est allée là où ça faisait vraiment mal, dans les usines, donc dans les institutions, dans les asiles, dans ces choses-là. Et je pense que c'est là-dessus qu'elle a recherché particulièrement. Et c'est évidemment la question de la permanence, pas de l'idéologie, mais de la présence d'anciens nazis dans le système même de la démocratie ouest-allemande et à haut niveau. Donc je pense que c'est ça, c'est ces sujets principaux. Après, pendant mes recherches, ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est cette très grande présence à l'image, un langage extrêmement long, extrêmement aigu, parfois agressif, toujours brillant, parfois hautain, mais toujours avec une très grande présence.
À partir de 1966, il y a une agitation étudiante. C'est parallèle à ce qui se passe aux États-Unis, donc autour de la guerre du Vietnam, enfin en opposition à la guerre du Vietnam, mais aussi plus généralement pour la situation dans ce qu'on appelle le tiers-monde. Par exemple, il va y avoir la réception d'un président de Moïse Tshombe, congolais, qui va être, c'est après l'assassinat de Lumumba, qui va être violemment chahuté. Ça, c'est une date importante. Ensuite, il y a la manifestation contre le Shah d'Iran un an plus tard, qui est en visite à Berlin, et lors de laquelle un étudiant sera abattu par un policier.
Documentaire d'Ulrike Meinhof, d'après les événements du 2 juin 1967.
Aber
Lorsque les étudiants sont descendus dans la rue pour faire connaître ce qui se passait en Iran, nous apprenions aussi la vérité sur notre État. On ne peut accueillir le chef d'un État policier sans en être solidaire.
Et ce qui va faire monter en puissance le mouvement étudiant. Alors, on sait depuis que le policier en question était membre du SED, c'est-à-dire du Parti communiste d'Allemagne de l'Est. Et donc, ça c'est une information qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Donc les étudiants ont interprété cet assassinat, parce que c'était vraiment un assassinat. Il a été abattu de dos alors qu'il s'enfuyait dans une rue isolée, comme la preuve de la non-dénazification de la société allemande et de la police, etc. Cet assassinat s'est produit dans une période où la répression devenait de plus en plus intense contre le mouvement étudiant, qui lui-même était aussi plus violent. Et Ulrich Meinhof n'a pas envie de rester à Hambourg. Enfin, elle va toujours au plus près de l'événement. Donc évidemment, elle a rejoint Berlin pour d'abord comme témoin, enfin avec cette fibre journalistique, mais aussi bien vite comme acteur des événements. Et c'est le moment où son couple commence à se fissurer. Et elle franchit le pas, elle quitte Hambourg pour Berlin. Donc c'est de toutes autres conditions de vie qu'elle va affronter, bien sûr. Et là, elle ferme une première porte. Elle ferme la porte, quand même, à une vie. Alors, on peut dire confortable en apparence. Mais justement, c'était pas du tout confortable pour Ulrich Meinhof, qui est une personne très intègre, hein, qui, quel que soit le jugement qu'on peut porter sur ses divers engagements, il y a chez elle une grande sincérité et une volonté d'être en accord, avec, de mettre en accord principe et vie, en fait. Et du coup, elle a une grande souffrance, parce qu'elle a l'impression d'être toujours en représentation. Elle est souvent invitée sur les plateaux de télévision, un peu, je dirais pas comme une bête de foire, ce serait exagéré, mais lorsqu'on cherche une personne très à gauche sur l'échiquier politique, bon, on la prend. Alors c'est une femme, elle est jeune, elle est radicale, elle coche toutes les cases, c'est très bien. Et elle se prête à ce jeu parce que c'est l'occasion pour elle de toucher un public plus large que justement le public de concrète. Et voici ce qu'elle dit, enfin qui nous montre un peu les problèmes d'identité que lui pose cette vie. Alors c'est un extrait de son journal intime. Obtenir des émissions de télévision, être écouté, fait partie de mon métier de journaliste et de socialiste, étendant mon influence au-delà de concrète. Le monde qui m'a ouvert l'accès à ce rôle ne correspond que très partiellement à mon être et à mon désir, car il revendique mes idées comme les idées d'un guignol, m'obligeant à dire en souriant des choses qui ont pour moi, pour nous tous, une importance mortelle, de les dire en grimaçant comme sous un masque.
Je pense que la question de la droiture, elle est intéressante. Quelque part, il y a une sorte de morale protestante dans son engagement. C'est-à-dire, nous, comme personne individuelle, sommes toujours responsables de tout et de tout le monde. Et ça, évidemment, quelque chose de très allemand. Donc ça, c'est une grande partie de l'Allemagne a été façonnée et influencée par cette philosophie protestante, ça c'est clair. Même étant catholique, je pense qu'elle est issue de cette tradition-là, en fait.
Donc elle part, et là, elle se retrouve pleinement actrice du mouvement étudiant. Elle essaie même de participer à toutes ces structures alternatives, vie en communauté, éducation anti-autoritaire des enfants, à travers ce qu'on appelait le mouvement des Kinderläden. Il s'agissait d'organiser des garderies, jardins d'enfants, dans des boutiques désaffectées pour s'occuper collectivement des enfants et en leur donnant une éducation la plus anti-autoritaire possible. Dans un contexte d'ailleurs où en Allemagne, il n'y avait rien de prévu pour la garde des enfants. Et c'est resté ainsi jusque dans les années 1990, puisque l'idéal allemand était quand même la femme au foyer. Et elle veut y participer, mais la règle, c'est que les parents, à tour de rôle, s'occupent des enfants. C'est ça tout l'intérêt de la chose. Or, elle ne peut pas sacrifier sa vie intellectuelle. Enfin, très vite, elle paye quelqu'un pour remplir son tour de garde, et du coup, elle n'est plus acceptée dans ce...
Le problème de toute femme qui fait un travail politique, moi y compris, c'est que d'un côté, elle milite, elle doit savoir parler, écrire, faire de l'agitation. De l'autre, elle est aussi désarmée avec ses enfants que les autres femmes.
Ulrike Meinhof, 18 mai 1969.
L'oppression des femmes s'ancre dans la contradiction entre vie privée et vie politique. Mais si un travail n'est pas lié à la vie privée, il ne pourra pas aboutir. La vie privée est éminemment politique. C'est difficile. Très difficile.
C'est très touchant, oui, pour une femme, d'être à la fois une mère, et une mère qui a des velléités d'anti-autoritarisme, elle le dit, on ne peut pas lutter pour un monde moins autoritaire et élever ses enfants de manière autoritaire. Et elle dit en même temps que c'est terriblement difficile pour une femme de conjuguer la vie familiale avec la vie intellectuelle et politique. Voilà, et la manière dont elle le dit, enfin, sa gestuelle avec les mains qui se tordent est poignante. On sent une vraie souffrance.
Moi, je pense que à cette époque-là, vie privée et vie politique s'est recoupée. Elle dit justement, on ne peut pas séparer ces deux pans de votre existence. Et donc, je pense, elle a dû souffrir de l'écart entre une conscience politique et une vie privée qui ne correspondait pas toujours à ses convictions.
Du coup, elle a mis ses enfants dans une école ordinaire et elle a continué à militer. Mais elle est quand même si là il y a un petit échec par rapport à la gauche dite alternative, elle a quand même une toute autre vie qu'à Hambourg.
Film d'Ulrike Meinhof au foyer sécurisé pour jeunes filles d'Eichenhof à Berlin.
Passiert Bambule. Alles kaputt, die Bullen aus, Bums.
Dann machen wir dem nochmal.
Hallo! Hallo!
Wir haben nicht mehr reden. Hallo! Nur viel mehr reden.
Warum wir das machen? Was wir wollen. Die Bunker mit richtigen Sachen vollschreiben. Nicht mit Peter, I love you oder alle Scheiße. Ja, nieder mit dem Lajuk oder Heime sind Gefängnisse.
Mutinerie Bamboule est un film charnière,
Véronique Bergen.
Et donc, dans ce film, le message d'Ulrike Meinhof est le suivant. Donc, il s'agit de filmer un centre pour jeunes filles et de montrer la reproduction des mécanismes d'oppression et de dire aussi que dans ces foyers où les jeunes délinquants sont relégués, il y a la potentialité d'avoir un sujet révolutionnaire quelque part qui s'insurge justement contre la fossilisation d'une société et contre la reconduction d'un pouvoir autoritaire qui, au lieu d'ouvrir donc une expérience d'épanouissement par rapport aux jeunes, les envoie quelque part dans une voie de garage.
Ulrich Meinhof s'est intéressé non seulement aux conditions de vie de ces jeunes filles, en l'occurrence, à travers un foyer sur lequel elle projetait de réaliser un documentaire fiction, hein, qui allait raconter une mutinerie, bamboule, mutinerie. Et elle s'intéressait aussi à ces jeunes filles comme potentiels sujets révolutionnaires. Enfin voilà, il fallait leur faire prendre conscience politiquement de leur situation. Et elle a réussi du point de vue de la réalisation du documentaire. En revanche, sa tentative de politiser ces jeunes filles s'est révélée un échec. Il y a une d'entre elles qui rejoint la fraction Armée Rouge, qui est la plus jeune militante d'ailleurs de la fraction Armée Rouge. Mais globalement, ces jeunes filles n'avaient pas du tout envie de ces missionnaires révolutionnaires venus leur prêcher la bonne parole. Elles voulaient juste plus de liberté, plus se maquiller, plus faire la fête et pas analyser leurs conditions de manière politique. Elles avaient bien raison dans un sens.
Et donc, le message d'Ulrich était, même si la révolte est terminée, la lutte doit continuer. Ce sont des phrases qui reviennent très, très fort. Et dans cette optique de lutte, de stratégie, Bamboul est une pièce intégrante, intégrale, j'allais dire. Il ne faut pas oublier qu'elle a vu le jour juste l'année du basculement de Ulrike Meinhof dans l'illégalité. Et Bamboul a été frappé d'interdiction, je crois, 20 ans. En République fédérale allemande et ailleurs. C'est un film qui a été maudit, puisque le passage dans l'illégalité d'Ulrich Meinhof a signifié sa mort sociale et la volonté de censurer radicalement l'intégralité de ses œuvres et de cette création en particulier.
Je me rappelle d'être tombé d'un vélo un jour avec une amie, que ça faisait beaucoup de bruit. Je me suis retrouvé en face d'une mitraillette avec un policier qui le tenait, qui était tout jeune, qui tremblait parce qu'il avait à ce moment-là le droit de tirer et qui... Il y avait une sorte de panique, une sorte d'hystérie et de violence qui était nouvelle. Enfin, qui était nouvelle pour nous. C'est des sensations plus que des affirmations de ma part, mais je pense que en tant qu'enfant, on a ressenti ça très fortement.
Alors c'est une époque où il y a une violence diffuse. Alors, il y a une violence de rue dans les manifestations, mais il y a aussi beaucoup de petits attentats, cocktails Molotov lancés contre des voitures de police, des bâtiments, des tribunaux, etc. Donc ça s'inscrit dans cette sorte de guérilla de très basse intensité, on va dire. Ça se durcit, il y a les lois d'exception qui sont votées, il y a des étudiants qui sont renvoyés de l'université, des gens qui deviennent victimes d'interdictions professionnelles, etc. Et à peu près à la même période, à Francfort, il va y avoir un incendie volontaire allumé dans un grand magasin. Un incendie allumé la nuit est prévu pour ne pas faire de victimes humaines. Bon. Le but, c'était d'allumer, on dit les protagonistes, une torche pour le Vietnam, c'est-à-dire de réveiller un peu les gens. Et ça faisait écho à un incendie accidentel qui avait eu lieu à Amsterdam dans un grand magasin, donc parfaitement accidentel, et qui avait fait la une des journaux, et les provôts d'Amsterdam avaient dénoncé cette émotion populaire pour cet incendie, alors que la guerre du Vietnam les laissait froids et que tous les jours, des gens étaient brûlés au napalm, dont des enfants, etc. Et c'est un peu une reprise de ça, sauf que là, c'est volontaire.
Gegen Brandstiftung im Allgemeinen.
On pourra soutenir que provoquer des incendies criminels n'est pas une bonne idée, car cet acte peut mettre en danger des gens qui ne devraient pas l'être. La loi que l'on enfreint quand on incendie un grand magasin n'est pas une loi qui protège les gens, c'est une loi qui protège la propriété.
Und so desperat auch
et aussi désespéré soit-il, l'acte d'incendier
so
un grand magasin est progressiste.
Ein Warenhaus anzuzünden,
justement.
Dieser Gesetzesbruch ist das progressive
parce qu'il constitue une violation de la loi.
Und wird dadurch nicht ausgelöscht,
mais cela n'effacera pas le fait que la destruction des marchandises alimente en réalité
also
le système
kapitalistischen Intention
et contrecarre en pratique l'intention anticapitaliste.
Es bleibt aber auch, was
mais comme
Fritz
le dit
Teufel,
Fritz Teufel à la conférence de la SDS, il est vrai qu'il faut encore mieux incendier un grand magasin qu'en diriger
un Warenhaus zu betreiben.
Il arrive donc à Fritz Teufel de trouver de bonnes expressions.
Kann manchmal wirklich sehr gut formulieren.
Et donc là où une certaine gauche voyait les incendies, bon, sous un angle dubitatif, Ulrich Meinhof a pris la plume et a très clairement applaudi un acte qu'elle trouvait de l'ordre d'une désobéissance civile et donc de l'ordre d'une volonté de réveiller une société allemande qui était assoupie et qui, de nouveau, rentrait dans une espèce de culpabilité qui était de l'ordre de la complicité passive. Puisque les pères avaient une complicité passive et active par rapport au national-socialisme, au génocide et à la Shoah, la génération d'Ulrich, juste postérieure donc, à la Deuxième Guerre mondiale, risquait d'encourir la même culpabilité, puisque simplement elle laissait faire un génocide en cours. Et je rappelle vraiment que c'est essentiel, l'Allemagne était vraiment le fer de lance et la base logistique des attaques menées par les ordinateurs au Nord-Vietnam.
Parmi les quatre acteurs de cet incendie criminel, il y a un certain Andreas Bader et une certaine Gudrun Enslin, qui sont des étudiants originaires, l'une de Stuttgart, l'autre de Munich, mais venus à Berlin, et acteurs du mouvement étudiant. Et Ulrich Meinhof va saluer cet acte dans les colonnes de Concrète, puisqu'elle participe encore comme journaliste à Concrète. Et elle va rencontrer Andreas Bader et Gudrun Enslin. Elle va leur rendre visite en prison, s'entretenir avec eux, assister à leur procès. Andreas Bader et Gudrun Enslin et Thoat Proll, le frère d'Astrid Proll, et Hans Solein, je crois, le quatrième. Tous les quatre vont être arrêtés très vite, donc incarcérés. Ils font un certain nombre de mois de prison préventive. Et ensuite, ils sont libérés dans l'attente de leur procès. Ils s'enfuient, ils vont un peu, bon, naviguent un peu à droite, à gauche, et finalement se retrouvent à Berlin, où ils sont de fait clandestins. Et là, il y a un petit groupe qui va se former avec donc Bader, Enslin, Meinhof, l'avocat Mahler, et un certain nombre d'autres personnes. Un petit groupe qui envisage sérieusement de construire une organisation de lutte armée pour sortir de cet affrontement de rue qui est vain finalement, qui se termine toujours de la même manière par de la répression et donc plus de violence, plus de répression sans qu'ils n'en sortent jamais rien.
Et donc ils prennent la clandestinité. Andreas Bader se fait reprendre lors d'un contrôle routier. Il est incarcéré, il retourne en prison. Et comme il accomplissait un travail, il est conduit à la bibliothèque de Dahlem. Et c'est là qu'un commando, au nombre desquels figure Ulrich Meinhof, libère Andreas Bader. Avec malheureusement, alors que ça devait être une action totalement pacifique, non violente, le bibliothécaire est fortement blessé.
Un peu une catastrophe. Et de fait, tout se passe dans une sorte de panique, alors que la libération devait se... Tout était bien huilé, il n'y aurait pas dû avoir beaucoup d'accrochages. Et Ulrich Meinhof n'était pas censé gagner la clandestinité. Alors là, les avis divergent. En tout cas, elle aurait très bien pu rester dans la salle et sembler surprise par l'irruption de ce commando. Ça ne signifiait pas pour elle de franchir forcément le pas vers la clandestinité. Alors, il y a des versions différentes. Certaines personnes, dont Astrid Proll, disent bah, « c'était pas prévu, elle a eu un moment de panique, elle a sauté ». Et en même temps, d'autres témoins affirment que les jours précédant cette action, Ulrich Meinhof leur avait fait part de sa volonté de franchir vraiment le pas. Et il leur avait dit que écrire ne suffisait plus, écrire était vain, qu'il fallait passer à autre chose. Voilà. Prendre des armes.
Moi, je me rappelle, j'étais enfant et je pense que je suis descendu. Dans le bureau de mon père, et il était devant la radio, et il m'a dit juste, mais elle a dû dérailler. Et bon, après, il m'a expliqué qu'il était parti en clandestinité, en fait. Mais ça, oui, ça je me rappelle, bien sûr. Pourquoi à cet endroit-là et à cette époque et à ce temps-là, tant de jeunes gens ont fait ce pas-là. C'est-à-dire, quelles ont été les conditions historiques qui ont fait que cette violence a éclaté en Allemagne, et puis pas qu'en Allemagne, plus tard en Italie, en France et un peu partout dans le monde. Donc le cas individuel, à ce moment-là, peut aider peut-être, mais n'éclaire pas totalement un phénomène politique qui concerne plus de monde et qui est caractéristique quand même d'une époque historique.
Alors, la date, 14 mai 1970, date de la libération d'András Bader par un petit commando donc à l'Institut d'Histoire Sociale, marque une rupture et marque la formation de la fraction Armée Rouge comme groupe de lutte armée, véritablement, puisqu'il s'agit d'une action armée et qui va plonger dans la clandestinité la presque totalité du petit groupe qu'ils ont commencé à former. Il y a des avis de recherche les concernant, Ulrich Meinhof figure ces avis de recherche, donc ils vont devenir clandestins. Ils doivent se procurer de l'argent, des armes, des papiers, et vont commettre un certain nombre d'actions en ce sens, c'est-à-dire des actions d'expropriation ou hold-up dans un certain nombre de banques, des cambriolages dans des mairies pour se procurer le matériel nécessaire à la confection de faux papiers, et ils vont acheter des armes aussi. Et puis, ils vont se disperser en République fédérale allemande. C'est-à-dire que c'est difficile de vivre longtemps clandestin à Berlin. C'est quand même une petite superficie. Il y a énormément, effectivement, de police, de surveillance. C'est plus confortable de migrer vers la République fédérale allemande, ce qu'ils font.
Est-ce que les porcs croyaient vraiment que nous continuerions à lutter avec des œufs contre des matraques, avec des pierres contre des pistolets, avec des cocktails Molotov contre des mitraillettes? Est-ce que quelqu'un croyait vraiment que nous parlions de développer la lutte de classe, de réorganiser le prolétariat sans nous armer en même temps? Est-ce que les porcs qui tiraient en premier croyez vraiment que nous nous laisserions tuer sans résister comme des bêtes d'abattoir? Gandhi et Martin Luther King sont morts. Les balles de leurs assassins, les balles contre Rudy, les balles tirées par Kouras, Dalwitz et Vetter ont enterré le rêve de la non-violence. Ceux qui ne résistent pas meurent. Wird lebend begraben. Ceux qui ne meurent pas sont enterrés vivants. Dans les prisons, dans les maisons d'éducation, dans les trous de Kreuzberg, Wedding, Neukölln, dans les cercueils de béton, dans les crèches et les écoles bondées, dans les cuisines équipées, dans les dortoirs à crédit. Die Klassenkämpfe entfalten in unbezahlten Schlafzimmerpalästen. Das Proletariat organisieren. mit dem bewaffneten Widerstand beginnen. Die Rote Armee aufbauen.
Déjà, entre le premier communiqué de la fraction Armée Rouge suite à la libération de Bader, il ne se passe plus grand-chose, mais il y a quand même un certain nombre d'arrestations, notamment celle d'Ortsmaller. Il y a aussi des fusillades qui éclatent entre la police et des personnes recherchées, des supposés terroristes, donc il y en a un certain nombre. Ça va rythmer un peu l'action de la fraction Armée Rouge, mais enfin, ce sont pas véritablement des actions offensives. Mais la première phase offensive de la fraction Armée Rouge, qui va un peu surprendre par son ampleur, par son intensité, elle se situe entre le 11 mai 1972, avec une explosion de 3 bombes au quartier général américain de Francfort. Il faut savoir que le territoire de la République fédérale allemande à cette époque est parsemé de casernes américaines. Il y a une grande visibilité des soldats américains. Et il y a des quartiers généraux, et en l'occurrence, à Francfort comme à Heidelberg, il y avait donc des très grandes casernes. Donc celle de Francfort est visée, il y a un officier qui est tué, 14 personnes blessées.
C'est le 6e attentat à la bombe en moins de 2 semaines en Allemagne fédérale, le 2e contre un quartier général américain. À Francfort, le 11 mai dernier, un colonel avait été tué et 11 personnes blessées au mess des officiers. L'attentat de Francfort et celui de Heidelberg ont d'autres points communs. La technique utilisée en particulier, voitures piégées garées devant l'immeuble. Ont-ils pour autant la même origine? Les bombes de Francfort avaient été revendiquées par les anarchistes de la bande à Bader et chacun des attentats suivants avait un rapport troublant avec eux. À Karlsruhe, c'était la voiture de leur juge d'instruction, à Hambourg, les bureaux d'Axel Springer, leur adversaire le plus acharné, qui sautait vendredi dernier. La psychose de la bombe s'étend en Allemagne. À Bonn, certains bâtiments publics sont bouclés plus tôt le soir. La police de Munich propose 1 million de marques et l'amnistie à quiconque permettra de mettre la main sur la bande à Bader traquée depuis 2 ans.
Donc, vous voyez, ça éclate partout. Heidelberg, Francfort, Hambourg, Munich, des villes très distantes les unes des autres, il y a une sorte de dilatation dans l'espace, puis une concentration dans le temps. Donc ça donne une image de puissance de ce groupe, on a l'impression qu'ils sont partout. Or, en fait, derrière toutes ces actions quasi simultanées, il y a un petit noyau de... Enfin, tous les procès ont montré que derrière tout ça, il y avait 25 personnes actives, plus un petit halo autour de personnes sympathisantes qui ont hébergé, fourni du matériel, etc. Donc très très peu de monde. Et ils vont être pratiquement tous arrêtés dans les semaines qui suivent.
Donc effectivement, l'année 72 marque les arrestations massives de la fraction Armée Rouge, qui a étonné plus d'un parce qu'il y avait une préparation extraordinairement ciblée de la logistique des attentats qui se sont... accumulé en l'espace de très peu de temps, mais faute de base de repli, faute peut-être aussi d'une stratégie suffisante par rapport aux sympathisants, toute la première génération des militants a été arrêtée dans un très bref laps de temps.
Ulrich Meinhof a été arrêté le 15 juin 1972, donc un mois après la phase offensive, en compagnie de Gerhard Müller, autre membre de la fraction Armée Rouge, à Hanovre. Et elle a été dénoncée par la personne qui l'hébergeait, qui était un professeur de gauche, sympathisant même de l'extrême gauche, mais opposé finalement à la fraction Armée Rouge, et qui pensait... faire ainsi son devoir, il l'a dénoncé et il y avait une prime qui était offerte et il en a fait don à je ne sais plus quelle association, mais les circonstances de cette arrestation montrent qu'il y avait un soutien quand même très mitigé et réservé de la gauche allemande, même gauche, extrême gauche, par rapport à la stratégie de la fraction Armée Rouge. Il y avait la crainte d'un durcissement de la répression envers tout le mouvement, et ce qui restait du mouvement étudiant allemand. Donc il y avait l'impression, de la part de cette gauche, que la RAF menait une sorte de politique du pire en voulant durcir, et c'était un peu aussi, c'est vrai, leur idée, de durcir absolument la répression, la liberté d'expression, enfin de durcir l'État allemand et de le faire basculer en État totalitaire pour dire, vous voyez, c'est ça le vrai visage, en fait, de la social-démocratie, c'est ça le vrai visage de ce qu'on nous vante comme étant la démocratie représentative. C'est en fait, ce sont des États tout aussi totalitaires.
Lors du procès à Stuttgart-Steinheim, les droits de la défense vont être laminés, bafoués. L'avocat Klaus Croissant va être interdit, donc il ne pourra pas exercer en tant qu'avocat, sera extradé en France et sera finalement extradé en Allemagne. Et on peut aussi bien sûr parler des conditions de détention des prisonniers de la fraction armée rouge, Ulrike Meinhof en particulier, Gudrun Enslin et les autres aussi, qui vont être soumis à des privations sensorielles totales, à un régime qui s'apparente à une technique de la mort lente.
La privation sensorielle, ça consiste à couper les sens, en fait, de tout stimuli. Donc, aucun son, la cellule est entourée d'autres cellules, est capitonnée, entourée de cellules vides, donc pas un son ne parvient au détenu, la lumière est allumée jour et nuit, avec du mobilier blanc, scellé, donc y a, au niveau visuel, aucun stimuli non plus, il y a juste la nourriture, puisque quand même ils sont nourris, mais le toucher, c'est pareil, et ça crée une... Ça crée un grand désarroi psychique, une désorientation et même des troubles de la circulation, par exemple, un certain nombre de troubles neurovégétatifs qui sont observés dans de telles conditions. Moi, je pense qu'il y avait un côté expérimental dans ce qui lui a été infligé, mais il y avait aussi la volonté de la briser.
Das Gefühl, es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl, die Schädeldecke müsste eigentlich zerreißen, abplatzen. Le sentiment que la tête explose. Le sentiment que la boîte crânienne va se casser, exploser. Le sentiment que le cerveau se ratatine comme un pruneau. Allmählich zusammen wie Backobst, le sentiment que la cellule bouge,
die Zelle
tu te réveilles, man wacht ouvre les yeux,
mach die Augen
la
auf.
Cellule bouge,
die Zelle fährt.
L'après-midi, quand le soleil brille,
nachmittags,
wenn die Sonne reinscheint, elle s'arrête tout d'un coup,
bleibt sie plötzlich stehen.
Man kann nicht klären, warum man
tu ne peux pas savoir pourquoi tu trembles.
Fièvre ou de froid. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu trembles, tu gèles.
Um in normaler Lautstärke zu sprechen,
pour parler à voix normale,
Anstrengungen,
il faut des efforts,
comme pour sprechen,
très fort,
fast brüllen,
il faut presque gueuler.
Das
Gefühl de devenir muet,
man verstummt,
tu ne peux plus identifier le sens des
mots. Man kann die Bedeutung der Worte
nicht mehr identifizieren.
Nur noch l'usage des Siphons.
Es der Gebrauch von Zischlauten.
Es absolument insupportable.
Absolut.
Unerträglich.
Une agressivité démente.
Rasende.
Oder qu'il n'y a pas de soupape.
Für die es kein Ventil gibt.
La conscience claire.
Das ist das
Schlimmste. On n'a aucune chance de survivre.
Klares Bewusstsein.
L'échec total.
Dass man keine Überlebenschance hat.
Völliges Scheitern.
On ne sait pas exactement comment elle est morte. Elle est morte pendue dans sa cellule de la prison de Stammheim. La version officielle, c'était suicide. Cette version a été contestée par un certain nombre de proches. En même temps, la commission d'enquête n'a pas pu trancher en faveur de l'un ou de l'autre. En ce qui me concerne, je pense qu'elle s'est suicidée. Pourquoi ? Alors, il y a quand même les conditions de détention qui ont été très rudes pour elle. Et elle a fait certains choix. Quand on fait des choix radicaux, enfin, on peut s'attendre à mourir de manière violente quand on fait le choix de la violence. Et ça ne fait pas de nous un martyr. Voilà, elle est morte au combat, pour moi. Même si elle s'est suicidée. Cette mort est de toute façon le résultat d'une répression qu'elle a subie, mais qu'elle a subie parce qu'elle avait choisi une forme d'engagement extrêmement radicale.
On a fait de Ulrike Meinhof le cerveau de la RAF, donc la théoricienne, et également, comme on a voulu la diaboliser, discréditer ses actions, l'État allemand a prélever le cerveau d'Ulrike Meinhof dans un geste d'une extrême violence afin de le donner à des laboratoires et d'essayer de prouver qu'en raison d'une trépanation qu'elle avait subie quelques années auparavant, sa conscience, sa lucidité ou ses capacités de raisonnement cognitif n'étaient plus entières. Donc je pense que dans ce geste de prélever le cerveau, de le garder dans le formol, de le disséquer, d'en faire des analyses afin de montrer que bon, la fracture à mes rouges était le fruit d'un cerveau dérangé, on voit toute l'infamie de l'État.
Le monde qui m'a ouvert l'accès à ce
rôle. Le monde qui m'a donné accès à ce rôle ne correspond que très partiellement.
Car il revendique mes idées comme les idées
à mon être et à mon désir.
M'obligeant à dire en
car il revendique mes idées comme les idées d'un guignol.
Une importance mortelle.
Il m'oblige à dire en souriant des choses qui ont pour moi, pour nous tous, une importance mortelle.
Les dire en grimaçant.
De les dire en grimaçant. Comme sous un masque.
Comme sous un masque.
Ulrike Meinhof, also maskenhaft, comme sous un masque.
Avec Anne Steiner, sociologue, Véronique Bergen, philosophe, Timon Koulmassis, cinéaste. Texte de Ulrike Meinhof. Voix, Andrea Schiffer. Prise de son, Yann Fressy. Mixage, Manuel Couturier. Coordination, Anaïs Quien. Attachée de production, Sylvia Favre. Ulrike Meinhof, comme sous un masque. Une émission d'Anna Baron, réalisée par Franck Lilin.